franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Alain Jean.
Bonjour.
On commence par la santé et une idée reçue, pardon, passablement erronée, Hélène, sur le cholestérol.
Mais c'est le cholestérol qui vous fait rire, Patrick?
Non, mais c'est le bon et le mauvais cholestérol.
Eh ben oui, vous avez tous entendu vos grands-parents dire un jour, voilà, en recevant leurs analyses.
Ça vaut pour plein de sujets.
Il y a du bon et il y a du mauvais cholestérol. Eh bien, Libération accompagne ce matin la diffusion demain soir sur Arte d'un documentaire intitulé « Cholestérol, le grand bluff ». Pour nous raconter l'incroyable construction marketing autour du cholestérol, donc, pour se faire du beurre sur la peur du beurre. Tout commence, nous explique Éric Favreau, par la constitution d'un ennemi. C'est la mort par crise cardiaque du président américain Ike Eisenhower en 1955, qui va faire du cholestérol le serial killer. Sa crise cardiaque, la faute au cholestérol, affirme alors un chercheur américain très en vue. Eisenhower fume 2 paquets de cigarettes par jour et ne fait aucun effort physique. La faute au cholestérol, on vous dit. Et quand les études scientifiques n'arrivent pas à faire le lien avec les maladies cardiovasculaires, eh bien on invente le fameux bon et mauvais cholestérol. Dès lors, nous raconte-t-on, va se mettre en place un couple redoutablement efficace. D'un côté, le monde de la recherche et l'autre, l'industrie agroalimentaire qui va se lancer à fond dans la vente de produits allégés et d'huile végétale et qui va financer des équipes pour accréditer le lien entre cholestérol et maladies cardiovasculaires et ainsi justifier l'achat de leurs produits. La boucle est bouclée, tout se tient. À leur tour, les labos pharmaceutiques entrent dans la danse et inondent le marché de molécules miracles, les statines, destinées à faire baisser le taux de cholestérol. Elles deviendront le médicament le plus vendu de l'histoire de la médecine. Récit haletant de ce qui va s'avérer être la plus grande esbroufe de l'histoire de la médecine.
Donc. On revient sur la bataille de Mossoul qui a donc commencé ce matin. Question dans la presse sur l'après.
Le temps de la victoire. La promesse est inscrite façon titre de journal sur des milliers de tracts largués hier sur Mossoul par l'armée irakienne, nous raconte ce matin Luc Mathieu dans Libération. La victoire, oui, mais après. Si la reconquête de la ville devenue le fief de l'État islamique serait une victoire stratégique aussi bien que symbolique, et qu'en l'occurrence elle ne fait guère de doute du strict point de vue militaire, reste pour les jours à venir quelques grandes inconnues. D'abord, quel sera le comportement des combattants de Daesh? Vont-ils se retirer ou combattre férocement en se servant de la population comme bouclier humain? Et puis, quelle sera également la réaction de la population? Des tags appelant à la résistance sont apparus sur les murs. La menace d'un soulèvement est prise très au sérieux par l'État islamique. Mais les habitants qui réussiront à fuir seront livrés à eux-mêmes, nous raconte toujours le journaliste. L'ONU estime que plus d'1 million de personnes pourraient quitter la ville. Quelques camps ont été construits, mais s'ils sont loin de pouvoir accueillir autant de déplacés, la même impréparation est à l'œuvre sur le plan politique, conclut-il, pour la répartition des pouvoirs après la reprise de Mossoul. Toujours dans Libération, la chercheuse Loulouha Al-Rachid s'inquiète, elle aussi. Le gouvernement irakien n'a pas de plan pour le jour d'après, dit-elle. Le partage du butin et des rôles de chacun peut donner lieu à une guerre de tous contre tous, entre milices chiites, forces turcs et kurdes. Derrière les rivalités communautaristes, il y a les convoitises des terres, du pétrole, des ressources en eau. En attendant, accuse-t-elle, les préparatifs pour parer la catastrophe humanitaire et l'afflux de réfugiés sont grotesques. Voilà pour les interrogations du jour d'après. En fait, Daesh aura vraiment perdu le jour où les Irakiens et les puissances régionales ne se feront plus la guerre, prévient Jean-Christophe Ploquin à la Une de la Croix. Autant dire qu'une victoire à Mossoul, si elle est nécessaire, est loin d'être suffisante.
En France, c'est la visite attendue aujourd'hui du président de la République à Florange qui fait réagir la presse.
Et c'est une drôle de dédicace qu'aujourd'hui en France, le Parisien publie. Une photo, on y voit en février 2012 le candidat Hollande perché sur la camionnette des syndicats. Il promet alors aux ouvriers de trouver un repreneur pour les hauts fourneaux. Une photo, cette photo envoyée par l'Élysée après la victoire en octobre et signée par le nouveau président, donc avec ces quelques mots. Cette élection, je vous la dois en partie, merci à vous, mais que faire? Que faire? Question suivie de plusieurs points d'interrogation. En fait, raconte un ouvrier désabusé, en octobre, c'était déjà un aveu d'impuissance. Il savait que le combat pour nous sauver était perdu d'avance. Patrick Appelmüller dans L'Humanité accuse. Florange reste un symbole des promesses trahies, dit-il. Ce voyage présidentiel sur les terres dévastées de la Lorraine industrieuse semble une visite de cimetière à la Toussaint. Le principal intéressé, François Hollande, donc s'en défend dans l'interview qu'il a donnée à plusieurs quotidiens locaux. « Je viens à Florange dire que j'ai respecté l'ensemble de mes engagements », peut-on lire notamment dans l'Est républicain. « Il n'y a eu aucune perte d'emploi », martèle François Hollande. Alors, Si le Figaro donne quitus au président de sa réussite économique, il n'y a effectivement pas eu de plan social à Florange, mais un réinvestissement dans une activité sidérurgique de pointe et la création d'un centre de recherche, écrit Bertie Bayard, c'est bien un gâchis politique, affirme néanmoins le journal, car la fermeture des hauts fourneaux est restée dans l'opinion comme la première des promesses non tenues de François Hollande. Et c'est sur l'épisode du rêve brisé de la nationalisation porté par Arnaud Montebourg que la gauche s'est irrémédiablement fracturée. La venue du président, un président encore plus affaibli depuis les révélations de ses logorées à l'intention des journalistes, est en tout cas sévèrement jugé ce matin par les éditorialistes du Grand Est. François Hollande de retour à Florange, pourquoi faire? Et surtout, à quoi bon? S'interroge Xavier Brouet dans Le Républicain Lorrain. En quoi la présence d'un président à ce point démonétisé peut-elle servir la cause d'un territoire éreinté par les marchands d'illusions? Que peut espérer Hollande lui-même de ce retour? Et puis, autre dossier qui illustre sans doute le hors-jeu, comme l'écrit l'Opinion ce matin, le hors-jeu de Hollande, Notre-Dame-des-Landes. Après la charge hier de Ségolène Royal dans le journal du dimanche, on arrête les frais, a-t-elle dit, pour dire son opposition à une évacuation de la ZAD. Offensive ce matin dans les échos de l'entourage de Manuel Valls, qui s'insurge de l'avoir en contradiction avec deux de ses piliers idéologiques, l'ordre juste et la démocratie participative, rappelle un proche du Premier ministre. Une acrimonie qui révèle en fait une rivalité dans la perspective de la présidentielle, si François Hollande devait renoncer, nous explique Elsa Fresnay, entre un Manuel Valls qui se pose de plus en plus en recours et une Ségolène Royal désireuse de lui barrer la route. Décryptage donc d'un après-Hollande qui semble bien avoir commencé.
Et après l'entourage de Manuel Valls, c'est l'entourage de François Hollande qui monte au front ce matin, puisque le chef de file des députés socialistes Bruno Le Roux déclare ce matin sur France 2 qu'il ne comprend pas les déclarations de Ségolène Royal. Elle prend le contre-pied de la démocratie qui s'est exprimée à plusieurs reprises et donc je ne comprends pas cette position, déclare Bruno Le Roux. On termine, Hélène Jouan, par une lettre.
La lettre grecque Phi. Elle est le nouveau logo de Jean-Luc Mélenchon. Phi comme France Insoumise, nous raconte ce matin Geoffroy Clavel du Huffington Post. Phi par affection pour ceux qui nous ont appris la démocratie, a expliqué le candidat. Alors les uns verront un petit bonhomme qui ferme le poing, d'autres le signal symbolisé d'un genre féminisé. D'autres verront ce qu'ils veulent, au fond, a-t-il conclu. Eh bien oui, c'est bien le problème, il y en a qui ne semblent pas y voir grand-chose. La journaliste du Monde, Raphaël Besse-Desmoulières, raconte qu'une dame à côté d'elle s'est émue. Phi, ça fait un peu bac plus 5, non? Après le Elpis de Benoît Hamon, nom qu'il a donné à son micro-parti en référence à la mythologie grecque, voici donc Phi. Alors on dit les électeurs de gauche déboussolés, et ben en attendant de choisir, ils révisent au moins leur culture grecque.
Mais oui, Phi comme France Inter aussi, non? Ah non, ça s'écrit pas pareil.
C'est marrant, il n'y a pas fait allusion hier.
Non, bon. Merci Hélène Jouan pour la revue de presse. Bonjour Sophie Aram.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Vous serez là à 9h05?
En fait, ce sera Ludovine de la Malbaise, évidemment. Mais bien sûr, mais elle était dans les rues hier. Il sera question de Manif pour tous, de Geneviève de Fontenay, de guerriage et un peu de l'étanchéité de Geneviève de Fontenay.
À tout à l'heure. Et dans un instant, retour de notre invité. Beaucoup de questions pour vous, monsieur Eckert, sur les impôts, évidemment, et sur le projet de budget 2017 au standard de France Inter. À tout de suite.